Africa.
La discothèque de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Bonjour, 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 mon cher Robertito.
Bonjour, bon dimanche à toi, Douin Manu, bon dimanche à toutes et à tous, et bienvenue à ce mois de mars.
Welcome, bye bye, February, welcome, March. Eh bien, on est content d'avoir franchi encore cette petite frontière-là, et le printemps va bientôt pointer son nez.
Et oui, si
est-ce qu'on aura la neige? On ne sait jamais. Ben pour l'instant, c'est peut-être à la montagne et encore, elle est un peu artificielle. Hein.
S'il n'y a pas changement de programme de Manu, parce que tu dis toujours, le climat fait ce qu'il veut en ce moment.
Oui, en ce moment, lui aussi, il est dans le free jazz. Hein.
Et oui, sacré free jazz.
Mais bon, ben nous sommes toujours, nous, très heureux ce dimanche matin là, de faire la balade avec vous hein, sur nos musiques. De notre continent que nous aimons malgré tous les nuages qu'on nous attribue et tout ça, et qui ne tombent pas toujours. Hein. Il y a quand même le bon côté du soleil que nous présentons à travers la musique.
Hein. Et oui, la musique que l'on aime et que l'on partage en famille. Et
c'est-à-dire, ça commence par les papis.
Mais aussi les mamies, les papas, les mamans, sans oublier...
La progéniture. En termes de progéniture, j'en ai amené moi aujourd'hui.
Ben oui, parce que les...
Il y a des petits-enfants qui sont là.
Le dimanche, ça s'amuse bien et ça accompagne papy au studio. Et puis c'est tellement mieux d'ailleurs de Manu, parce que les dimanches, généralement, si c'est pour rester devant la PlayStation, c'est un peu ennuyeux.
Voilà, au moins ils ont quitté leurs appareils. Moi, je les appelle les 3e. Hein, Maya...
Et Emiliane aussi.
Maxi.
Et Maxi.
Voilà, les 3e sont là ce matin, de ce côté-là. Ben, ils vont assister à ce qu'on va leur raconter comme histoire sur nos musiques.
Et oui, sur nos musiques, mais avant de la raconter, on va d'abord passer par la page de la réclame.
Obligatoire, Hugo.
Le dimanche, c'est Manu Dibango sur Africa Radio.
Africa Radio, et comme chaque dimanche de Manu, eh bien on se retrouve way back dans le temps, avec des morceaux pour l'histoire.
Voilà, et puis avec une personnalité pour l'histoire éternelle. D'ailleurs, il s'agit de Mama Africa.
Myriam Makeba.
Mais période Guinée.
Et oui, de Manu, parce que finalement, nous autres, la progéniture des années 70, pour le dire comme ça, 70, on voit toujours Mama Africa, Myriam Makeba, sur le versant des années patapata, et puis après, il y a eu le grand saut, et on la retrouve sur le versant où elle est déjà une femme consacrée, qui est un peu plus moderne. Mais les années guinéennes ont été charnières, et tu le disais, extrêmement importante pour la femme politique qu'elle était.
Oui, parce qu'elle faisait partie, elle est entrée dans l'histoire, non seulement. Bon, on connaissait un tout petit peu son passé d'Afrique du Sud, mais comme on ne connaissait pas grand-chose sur l'Afrique du Sud, on l'a connue réellement une fois qu'elle est entrée aux États-Unis et qu'évidemment, la fenêtre était beaucoup plus grande et c'était une porte. Carrément, hein, je veux dire, avec les Haribes et la Fonte, on a connu très longtemps cette artiste, dans la période artiste, mais le côté militant était toujours là, derrière, et il est tellement devenu plus grand qu'elle a quitté les États-Unis pour aller en Guinée. Alors cette période de la Guinée, c'était aussi une période où on pouvait rêver de l'Afrique fraîchement indépendante, où ceux qui contestaient l'ordre établi dans nos pays francophones pouvaient trouver gîte et couvert.
Eh oui, gîte et couvert sous l'égide d'un certain Ahmed Sékou Touré. Alors pas besoin de revenir en détail sur les raisons qui ont emmené Mama Africa à cet exil avec son époux d'alors, le Black Panther Stokely Carmichael, qui deviendra d'ailleurs Kwame Touré. Ils arrivent là-bas en 69 et alors gîte et couvert de Amanou, mais encore un peu plus que ça, parce que finalement Sékou Touré les accueille, mais au moment où lui considère la culture comme un sacré outil, voire une arme, pour affirmer un peu cette aura guinéenne, ça tombe à point nommé, parce que Myriam Makeba, qui aimait être comme une éponge et s'imprégner des cultures de là où elle se trouve, elle va trouver un véritable terreau où elle va faire des choses magnifiques.
Et faire rêver beaucoup de ceux qui croyaient au lendemain chantant de l'Afrique, donc fraîchement indépendante et tout ça, et voir que quelque part en Afrique, il y avait deux pays comme ça d'ailleurs, pour des raisons similaires, mais en même temps, il y avait l'Algérie qui accueillait également les opposants. Mmh. Beaucoup d'opposants du Cameroun et d'autres pays se sont retrouvés à l'Algérie de cette époque. Hein. C'est difficile à croire, mais l'Algérie recevait beaucoup de Noirs. Il y a quelqu'un avec nous qui peut en parler d'ailleurs. Okay. Quand on va arriver à la minute de l'inspecteur Makossa, va nous en parler. Mais il y avait évidemment la Guinée qui avait accès aussi une bonne partie de son destin de façon culturelle.
Et la culture tellement importante au sein d'ailleurs de la vision siliphone de Sékou Touré avec le label, avec tous les groupes, que Myriam Makeba dans ses années guinéennes ne chôme pas, elle ne chôme pas en tant qu'artiste, elle enregistre cet album et ce répertoire dans lequel on va plonger. Elle a également ce rang de ministre de la culture, elle est installée à Dalaba, elle s'imprègne des langues et de tout ce qui s'y fait. Mais tu le disais, la Guinée c'est aussi une période très douloureuse parce que c'est finalement là où des années plus tard, un 17 mars 85, où elle va perdre sa fille Bongui dans des conditions terribles, et c'est aussi de là où elle va partir vers les différentes contrées africaines, c'est-à-dire qu'elle redécouvre son propre continent sous un autre angle.
Et qu'elle acquiert beaucoup de passeports. Il faut dire que la Guinée en même temps c'était sulfureux, c'était quand même le seul pays qui a dit non à De Gaulle, avec ce que ça suppose comme conséquence. Et Sékou Touré, il avait donc ce handicap de ne pas être comme tout le monde et en même temps de mettre l'accent plutôt sur la culture. Vraiment, c'est des choses que on peut se demander comment il a pu faire ce genre de gymnastique, hein, parce que c'était pas, son économie était pas axée sur l'or, sur le pétrole, sur le cacao, plutôt les orchestres qui, les bébés à jazz, enfin tout ce qu'on connaît comme national, qui a été créé à ce moment-là, un label de disques qui a été créé, des journalistes qui faisaient des pochettes, enfin toute une industrie culturelle, finalement. Donc, pour promouvoir, et puis il y avait les ballets.
Aussi,
en même temps,
qui ont produit des choses.
Donc, tout était axé pratiquement sur la culture et le nom à De Gaulle.
Et c'est vrai que Myriam Makeba, dans cette période guinéenne, va être aussi celle qui va s'entourer d'excellents musiciens qui sont aujourd'hui des icônes. On a parlé de Papa Kouyaté, qui deviendra aussi famille par la suite. Myriam Makeba, qui à travers ses vêtements, ses tenues de scène, va aussi arborer toute cette culture guinéenne. Makeba aussi, avec, une fois encore, dans cette partie de sa vie, un malentendu. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que Sékou Touré, c'est aussi des traits, des aspects sombres de son régime, celle du camp Boiro, celle des disparitions. Et lorsque Makeba chante Sékou Touré à la manière d'une griotte, beaucoup à l'époque diront, mais finalement voilà, Makeba, comment peut-elle célébrer ce dictateur? Comment peut-elle célébrer...
C'est un peu comme Staline.
Voilà, où il y a toujours... Voilà. Ce versant, et Makeba dira en fait, je chante Sékou Touré, mais en même temps, je chante Nyerere, en même temps, je chante Kwame Nkrumah, en fait, elle chante ces gens qui, ben, de manière générale, ont dit non, comme tu le disais tout à l'heure.
Voilà le malentendu, un des malentendus, parce qu'il y en a eu beaucoup pendant le parcours, hein, et il y a toujours de toute façon les malentendus, il y a des gens qui entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, et il y a des gens qui ne voient pas la réalité, et surtout il y a des gens qui ne voient pas la projection.
On aura tout à l'heure l'analyse de l'inspecta dans la musique, dans la minute justement qui nous donne et qui nous enrichit tellement. Mais avant cela, on va plonger dans la première partie du jukebox. Et ce qu'on découvre de Amanou, c'est que Makeba passe d'une langue à l'autre. Elle peut chanter en soussou, en peul et en malinké. Il y a des moments où elle est dans du jerk ou bien alors de la pop. Et puis des fois, elle est dans le style mamaya. C'est-à-dire qu'elle se promène dans différents registres, certes guinéens, mais aussi de son époque.
Oui, mais aussi du fait qu'elle était d'abord chanteuse et que chez elle, elle chantait du tout. Elle n'était pas spécialisée dans un rythme ou dans un rituel spécifique. Elle chantait beaucoup l'Afrique, bien entendu, et chantait dans ses langues aussi. Déjà en Afrique du Sud, elle chantait en plusieurs langues du pays, donc elle avait l'habitude de pratiquer des langues diverses, quoi. Donc quand elle est venue en Guinée, Ben, elle a continué, mais avec un répertoire plus, disons, plus africain, quoi.
Et c'est des morceaux, ce sont des morceaux comme La Guinée, Guinée, que tout le monde connaît, où elle chante, et puis dedans, on, à un moment donné, on a quasiment un côté pop, soul, on n'est pas du tout au cœur de Conakry, à Amdalaï, ou alors à Koranti, on pourrait être à New York, on pourrait être à Paris, ça montre bien la Mama Africa qui aime faire aussi rencontrer les cultures.
Oui, ça montre aussi comment était l'époque. Mmh. Avant de se définir, de devenir frileux, tel est Camerounais, donc il faut la musique camerounaise, tel est Sénégalais. On chantait du tout, il suffisait d'avoir la bonne voix et de prendre des bonnes chansons. Combien de versions de Guantanamera il n'y a pas eu en Afrique ?
Eh oui.
Et voilà, il y a Guantanamera, il y a Manicero. Mmh. Tout le monde chantait tous ces trucs-là et tout le monde trouvait normal qu'on chante ben, ce qu'on entendait à la radio, même les trucs français, il y en a qui chantaient des trucs de Tino Rossi et tout ça. C'est au fur et à mesure des indépendances qu'on avançait dans ces séparations des uns des autres que chacun a commencé à avoir une part de vérité dans une part d'Afrique. Voilà.
Et dans cette part d'Afrique, c'est Makeba qui se balade dans les langues lorsqu'elle chante Teya, Teya, Tatarumeka. On a l'impression qu'on est au cœur d'un village. C'est presque un appel. Et puis alors, il y a des titres aussi comme Maobé Guinée qui sont des morceaux où on a tous les instruments traditionnels mêlés à des guitares. Dans ces titres-là, c'est vraiment alors la guinéenne. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Puisque beaucoup, quand ils les écoutent encore aujourd'hui, demandent mais qui chante? C'est qui comme artiste?
Ouais, parce qu'il y a la coura, il y a le balafon, il y a l'ambiance en fait rythmique guinéenne. Elle met sa voix là-dessus.
Et elle la met également dans un morceau qui s'appelle Touré Barika, un des morceaux où elle évoque évidemment Ahmed Sékou Touré. Touré Barika, Touré, merci pour cette vision, pour cet accueil. C'est une plongée dans l'univers de ces Guinean Years, comme elle les appelle elle-même.
Voilà, et donc Hugo va mettre une tune dans le...
La string.
Yes.
Le jukebox de Manu Dibango.
Avec Robert Tito.
Sur Africa Radio.
Mon amour.
sur Africa Radio.
Mena
d'or de Manu Dibango
sur Africa Radio.
Makeba, les années guinéennes, c'est beaucoup d'émotions quand on écoute d'ailleurs ces morceaux de son répertoire, et cette partie, elle est restée très attachée à la Guinée jusqu'au bout, hein, d'ailleurs, puisque sa petite fille est très proche des enfants de Kouyaté Sorikandia, elle les a d'ailleurs élevés, elle les a eus tout petits comme ça dans sa maison, et il y a aussi toujours ce souvenir de Mama Makeba du côté de la ville de Dalaba, où elle s'est installée loin de la capitale de Conakry, parce qu'elle disait jamais aller au marché, j'aime faire mon chant. Elle était très loin. Elle disait, ici, je suis Myriam.
Oui, et puis il y a une histoire terrible. Moi, je suis arrivé en Guinée pour la première fois. Et sa fille, donc, elle a eu cette fausse couche là et tout ça. Et c'est la première fois que j'allais en Guinée. J'avais amené l'inspecteur Makossa d'ailleurs. Je ne sais pas si ça en souvient, il est ici.
On lui dit bonjour, inspecteur.
On lui dit bonjour.
Bonjour, je ne peux pas oublier ce voyage. C'est culturel, ne meurt qu'une fois.
Non, ben c'était une espèce de voyage initiatique. On arrivait vraiment en plein deuil, hein, parce que c'est un deuil qui avait touché beaucoup de gens en Guinée, hein, vu le passé de Myriam. Et nous, on arrivait à faire des concerts et tout ça. Tout ça, c'était un peu compliqué. Mais en même temps, on découvrait une Guinée qu'on ne connaissait pas du tout. On connaissait la Guinée par l'histoire et par les livres, mais pas sensuellement, quoi, physiquement.
Et puis, il faut rappeler d'ailleurs de Amanou l'attachement, parce que Stokely Carmichael est inhumé en Guinée. D'ailleurs, Bangui est inhumé là-bas, ils sont encore là-bas. Les images que l'on voit d'ailleurs sur Internet, on a toujours ce beau reportage où elle est interviewée par un journaliste belge et où elle se balade, alors en tout anonymat, qui lui pose la question d'ailleurs, mais est-ce que les grandes salles du monde ne vous manquent pas? Est-ce que tous ces voyages et est-ce que surtout le fait d'être blacklisté aux États-Unis ne vous manque pas? Elle a dit pas particulièrement, je suis une chanteuse et j'aime chanter l'endroit.
Et surtout en Afrique. On partage un truc avec elle. Quand je me suis trouvé aux États-Unis, que j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, et que Ben Soumaro m'a invité à ce qui allait devenir finalement mes 4 ans en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait une sensation du même Manu, mais dans un décor, enfin, disons, dans un décor où il était apaisé parce qu'il trouvait comment l'esprit des ancêtres quelque part en Afrique. On avait le fait que ok, il y avait le Manu machin, mais quand tu arrivais là, tu respirais un coup, tu dis ah, je suis quand même sur la mère de ma mère, enfin disons, et puis je vais faire quelque chose pour mon continent, pour le pays, et tu as une satisfaction. On peut pas définir cette satisfaction. Elle l'avait là. Quand tu vois la photo, elle est comme anonyme.
Oui, épanouie, hein? Surtout, très heureuse.
Voilà, épanouie.
C'est et le tu mot le disais, que je cherchais. Donc Manu, pendant ces années-là, elle a plusieurs passeports. Alors, le passeport algérien, elle en a eu plusieurs. Et elle continue de tourner. Et incroyable, c'est que Patapata continue à cartonner, d'ailleurs, dans le reste du monde. Quand on lui demande, mais cette chanson-là, elle dit, oh, mais cette chanson est celle qui m'ennuie, finalement, dans mon répertoire, parce que je n'y dis rien de très profond, mais bon, les gens l'aiment, donc je la chante. Et puis ça, un spectacle Makossa, c'est aussi le fait que Myriam Makeba parle aussi du chant engagé.
Oui, mais elle vient de là. Lorsque Myriam Makeba quitte, souvenons-nous, l'Afrique du Sud, elle appartient au groupe des gens qui ont créé Sophia Town. Mmh. Alors, les gens pensent que c'est Mandela et l'ANC qui ont libéré l'Afrique du Sud. Moi, je pense que les murs de Jéricho ont d'abord été repoussés par Sophia Town. Donc, quand ces gens quittent, ils quittent l'Afrique du Sud, vont aux États-Unis. On a parlé l'autre fois du rôle de Harry Belafonte pour leur accueil. Mais l'épisode que vous racontez, c'est celle de 69, parce qu'en 1969, souvenez-vous, quand même, l'homme vient de marcher sur la Lune. Oui. C'est l'année de 69. Et c'est surtout l'année de Woodstock. Où on voit, pour la première fois, Richard Evans chanter ce que vous savez. Et surtout, Jimmy Hendrix, il reprend l'hymne américain.
À la guitare.
À la guitare. Oui. Plus, c'est la même 5
année. 5h du matin.
C'est la même année. Donc, et cette année, pour quitter les États-Unis, c'est l'année où le Black Panthers prend de force l'Université de Californie pour imposer l'étude de Black Studies. Donc, c'est une arrière-course que vous vivez. Alger et bientôt à Conakry est la suite de cette histoire, parce qu'Alger, souvenez-vous, Alger a d'abord formé M. Mandela lui-même. Alger, le festival panafricain d'Alger est une réaction contre le nom du festival mondial des arts nègres. Les Maghrébins estimaient que si on dit mondial des arts nègres, eux, ils sont exclus. Et il faut le savoir. Donc voilà pourquoi on passe du festival mondial des arts nègres au festival panafricain. Et c'est là que débarquent les Black Panthers et le Free Jazz. Alors, tu vas être content, là, parce que...
Ah ben justement, parce que là, la boucle, bon, voilà. Moi, là, je prends.
Bon, c'est de là qu'ils vont partir à Conakry, qui n'est pas loin. Les deux que vous venez d'évoquer, c'est une année, entre 6 mois et 1 an. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, remarquez, Dibango et moi, qu'on y vient pour l'enterrement de Sékou Touré, ben, vous ne l'avez pas dit. On a trouvé plein de gens de l'ANC là-bas encore, surtout le reste des vivants de l'UPC. Donc c'est une Conakry, c'est pas seulement ce que vous croyez. Et cette année qui survient après, c'est la même année ramassée, c'est 70, c'est sous le dessous de l'Accra.
Ça c'est... Est-ce qu'on peut dire de Amanou que ce sont des années chargées au niveau...
Et charnières.
Charnières.
Ouais. Charnières en même temps, la culture, elle va prendre, disons, d'autres directions. Voilà. Autre que cette direction qui était imprimée par la première vague qui finit finalement par le free jazz, par quelle démarche. Ben, toutes ces démarches-là aboutissent à un truc, et le climax est là, et puis après, donc, ça va décliner, chaque pays va avoir une déclinaison différente des autres.
Est-ce que, ça c'est une question que je me pose, parce qu'ils vont travailler avec elle plus tard, et est-ce que finalement Paul Simon et toute cette scène anglo-saxonne qui va demander à travailler avec Makeba des années plus tard ne la connaît pas déjà au moins par disque dans ces années-là ou connaissent pas sa figure?
Non, ils peuvent connaître le disque, mais ils peuvent pas connaître l'historique dont parle l'inspecteur Makossa. Il y avait un historique quand
très,
même.
C'est très récent.
Paul Simon, c'est non, c'est un Américain. Mm-hmm. Il ne venait pas là à cause de l'histoire.
Oui.
Que nous raconte l'inspecteur là. Il venait là parce que bon, Myriam Makeba c'était plus la même d'ailleurs.
Graceland
et tout.
Justement, Graceland a beaucoup à voir, à mon avis, avec Harry Belafonte. J'en fais le pari. Mais pour revenir sur cette année-là, je voulais juste vous faire remarquer que 69, 70, c'est quand même l'année, que ce soit Accra, que ce soit, parce que Accra, c'est le premier voyage de Louis Armstrong. Louis Armstrong se présente à Accra.
Oui, d'abord là-bas, oui.
Ah oui, oui.
Avec des belles images,
Oui, voilà. Mais si vous revenez, j'insiste là-dessus.
Après, il y a eu Soul to Soul, hein. Dans les années 70.
Et c'est ça, Accra.
Voilà.
C'est ça, Soul to Soul. Je voulais juste qu'on se souvienne ici que c'est cette année 69, que les membres des Black Panthers, vous savez, après l'élimination physique, bon, de Luther King, l'élimination physique des Fred Kennedy, physique de Malcolm X, ils prennent l'Université de Californie de force, l'investissent, et exigent qu'on étudie les cultures, l'histoire africaine maintenant à l'Université des États-Unis.
Mais ce qui est riche d'ailleurs dans le parcours des années guinéennes de Makeba, de Amanou, c'est que le fait de chanter dans les langues locales, parce que là en Guinée, elle s'approprie le soussou, elle s'approprie le peul. Il y a aussi une faculté qu'ont certaines chanteuses ou interprètes, y compris celles qui sont avec toi sur scène, à être des éponges. On demande à Zaza et à Valé de faire des chœurs chez toi. Oui. Elles les font dans d'autres langues. Elles sont très poreuses. Et Makeba aussi aimait bien ça.
Makeba, elle, c'est déjà l'authenticité, pas l'authenticité de Mobutu, mais l'authenticité de chanter les langues africaines. Et comme je t'ai dit, le fait que déjà chez elle, elle avait plusieurs langues et qu'elle maîtrisait, donc le fait de chanter en plusieurs langues, elle n'a fait que continuer ce talent qu'elle avait en Guinée. Bon, les choristes, elles, le métier de choriste exige que vous appreniez phonétiquement plusieurs langues, parce que c'est le propre d'une choriste, c'est d'être au service de l'artiste, et l'artiste peut venir de n'importe où. Il y a toujours une façon de reprendre certaines parties des chansons, et les choristes sont là pour les reprendre, et donc elles sont habituées à faire des trucs d'une façon phonétique, quoi.
Et alors, elle, la diction est vraiment parfaite, à tel point que dans les titres qu'on va écouter dans la deuxième partie du jukebox, qu'il s'agisse de Sekou Famake ou alors des morceaux comme Djiginira, le public applaudit dès qu'elle commence à chanter. Les gens, il y a une sorte seconde d'observation et d'étonnement, c'est l'hystérie dans la salle, des morceaux comme Sekou Famake et Malouyame, où il est encore question de ces héros africains qui reviennent tout le temps. Alors on a Kruma, on a Niedere, on a vraiment, elle célèbre donc ces héros d'Afrique, et puis à contre-pied arrive Jeux Interdits. Alors Forbidden Games qu'elle avait fait en anglais, mais Jeux Interdits en français, qui est un des thèmes musicaux les plus célèbres.
Mais pour montrer aux gens qu'elle était vraiment une chanteuse et pas une chanteuse typique ou quoi. Elle était d'abord chanteuse dont elle pouvait chanter de tout. Elle aurait pu chanter aussi des classiques, des trucs qui venaient du music-hall français, qui venaient d'un peu partout, quoi. Du moment que c'était des mélodies populaires, elle se les appropriait, et c'est le propre des vrais chanteurs de chanter des grands, des choses que tout le monde connaît, des chansons populaires, voilà.
Et d'y rajouter parfois des cordes, comme dans le morceau Malouyame, où on a les cordes, et tu le dis, dans cette période où toi tu as enregistré les cordes avec Boukaka et d'autres, les violons ont leur place.
Ben, il y avait le fait que au début on voyait pas quel rapport entre les Africains et les cordes, jusqu'au moment où on a vu que ben, les cordes, ça, ce sont des instruments comme d'autres. Et qu'il suffit d'apprendre à les maîtriser et de se les approprier. Mais aussi, il y a des chanteurs qui t'inspirent ça. Bukaka, c'est sûr qu'il t'inspire. Le fait que tu peux avoir des cordes derrière lui, quelqu'un d'autre aurait chanté, que ça t'aurait inspiré une autre type d'orchestration. Ça dépend aussi en général des artistes à qui tu as affaire. Hein.
Et là, on a affaire à Mama Africa, période guinéenne, un de ses albums les plus populaires dans la sous-région et dont beaucoup d'artistes plus jeunes encore aujourd'hui ont repris les titres. Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
Sur Africa Radio.
discothèque de Manu Dibango
sur Africa Radio.
trésor de Manu Dibango
sur Africa Radio.
La légende Myriam Makeba et les années guinéennes, ça nous donne une fois encore de Manu envie du biopic. Je ne sais pas qui va s'y coller, mais un biopic sur Mama Africa.
Un jour ou l'autre, on tombera sûrement sur un cinéaste qui est intéressé par ça. Mais nous, tous les ans, on essaye de vous parler des mêmes artistes. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas d'autres, c'est pour que vous les. Que les nouvelles générations apprennent. Après tout, jusqu'à présent, on joue Bach, on joue Beethoven, on joue Mozart, et ça, c'est bien parce que les gens continuent non seulement à jouer ces répertoires qui datent de 3 siècles, des fois un peu plus, un peu moins, mais c'est parce qu'on en parle et qu'on les pratique. Et nous, notre rôle ici, entre autres, c'est de vous faire connaître ce qui les fondations de nos existences culturelles mutuelles.
Et la culture continuera, parce que nous irons dans ce Cameroun qui nous offre des merveilles, comme celle de quelqu'un qu'on a surnommé affectueusement Aladdin.
À condition que vous restiez avec nous.